Bon, bah merci à vous d'être ici, d'être aussi nombreux pour cette heure d'entretien avec Gérard Klein. Alors, Gérard Klein fait partie de ces figures de la science-fiction dont un des lieux communs est de dire qu'on ne les présente plus. Mais justement, là, cette fois, on va le présenter, on va même passer une heure avec lui. Gérard Klein, c'est un des piliers des Utopiales. L'an dernier, les Utopiales avaient tenu à lui remettre leur prix extraordinaire, je crois, des Utopiales. Cette année, c'est pour son temps d'anniversaire qu'on souhaitait te souhaiter avec un petit peu de retard. Je crois que tu es né en mai 1937.
Oui.
Donc, bon anniversaire avec 6 mois de retard. Et donc, ça fait. Le texte de présentation de cette session expliquait que sur ces 80 ans, il y en avait au moins 60, si ce n'est 65 de science-fiction. Donc, j'aurais tendance à te demander quand as-tu pris vraiment contact, quand as-tu réalisé que la science-fiction existait, même quand as-tu appris à lire? Est-ce que la science-fiction faisait partie de tes premières lectures? Est-ce qu'il y avait des livres chez tes parents de science-fiction?
Des livres de science-fiction, oui, en un certain sens.
Est-ce que tout le monde entend Gérard?
Pas beaucoup. Hein. Comme je suis né donc en 1937, j'ai le douloureux privilège d'avoir maintenant plus de 80 ans, ce qui explique d'ailleurs que je fatigue vite et que je n'ai pas pu venir à midi à une réflexion sur le temps, mais j'ai certainement été, et c'est paradoxe, mais j'ai certainement été très bien remplacé. Parce que hier, voulant aller à l'excellent musée des arts de la ville de Nantes, que je vous recommande, on m'y a emmené à pied et fait revenir à pied. Ça m'a assassiné. Donc, j'ai quand même réussi à venir à cette heure pour essayer de vous raconter, contrôlé par Eric Pichol, qui connaît ça mieux que moi, quelques aspects de mon existence. Alors d'abord, j'ai appris à lire très tôt. J'ai appris à lire à 4 ans et demi, pas tout seul du reste, mais parce qu'une voisine à Blois, où j'habitais pendant la guerre, était une institutrice à la retraite, qui avait cette excellente idée que plus on apprend tôt aux enfants à lire, plus il y a de chances qu'ils deviennent des lecteurs. À l'éducation nationale, c'est une idée qui va et qui vient, hélas. Mais enfin, je pense qu'à partir de 3 ans et demi, 4 ans, on peut apprendre à reconnaître des signes à lire. Donc j'ai appris tard, à 4 ans et demi, et je suis devenu tout de suite un boulimique de lecture. Alors la science-fiction, je crois que je l'ai découverte. J'ai évidemment très tôt, j'ai lu Verne. Alors, oui, c'est de la science-fiction. Je ne peux pas dire exactement quand, mais en tout cas, ça existait dans ma famille et dans des éditions, sinon historiques, du moins déjà assez anciennes, dans des petites reliures rouges qu'on ne voit plus guère de nos jours. Alors, j'ai lu Verne, mais le premier livre qui m'a réellement frappé, ça a été Le Monde perdu de Conan Doyle, que ma mère m'avait donné à lire dans une édition totalement dépenaillée, qui n'avait plus de couverture, et que j'ai retrouvée d'ailleurs, et que je garde précieusement dans ma bibliothèque. Je pense que pour moi, Verne, ce n'était pas exactement la science-fiction, le décalage. Avec Conan Doyle et Le Monde perdu, j'ai trouvé ce décalage et je n'en suis plus jamais ressorti. Il faut dire aussi que très tôt, et pour des raisons qui ne sont pas évidentes, j'ai éprouvé un très vif intérêt pour la science. Et mes parents m'ont abonné à ma demande à plusieurs revues, dont en particulier La Nature, qui est devenu longtemps après La Recherche, et dont je dois avoir une collection qui remonte au tout début des années 50, donc quand j'avais 12, 13 ans au maximum. Donc j'ai toujours eu toute ma vie cet intérêt, je dirais même cette passion, cette fascination pour la science. Alors, ça m'a conduit tout naturellement à la science-fiction. Je rassurerai tout de suite les professeurs de lettres qui seraient dans cette salle en leur disant que j'ai lu beaucoup d'autres choses relevant de la littérature générale et aussi beaucoup de littérature anglo-saxonne, en particulier Aldous Huxley, dont je lui ai à peu près toute l'œuvre, hein, essais compris pour l'Angleterre, enfin pour la Grande-Bretagne plutôt, et énormément d'écrivains américains. À 20 ans, j'étais imbattable sur la littérature américaine.
Tu parlais de ta passion précoce pour les sciences. Je crois qu'effectivement, l'une des caractéristiques majeures de, j'allais dire, de ton parcours, c'est que tu n'es jamais là où on t'attend. Tu es, quand on voit en toi le grand auteur français, tu deviens éditeur. Là où on voit en toi le grand éditeur français, tu es essayiste. Là où tu es monsieur science-fiction, ton dernier livre est une introduction, un travail d'histoire des sciences sur la réception de la mécanique quantique. C'est un...
Je peux en dire un mot, peut-être précisément.
Bien sûr.
Parce que à 78 ans, je n'avais rien vraiment. J'ai écrit des articles autour de sujets scientifiques ou des préfaces autour de thèmes scientifiques dans la science-fiction, et pas seulement d'ailleurs en particulier, mais je n'avais jamais vraiment écrit de livres de science. Il y a 2 ans à peu près, Jean-Pierre Farabaud, dont le livre d'introduction à la physique quantique, Le quantique des quantiques, est bien connu et continue à se vendre très, très bien. Jean-Pierre Farabaud, que je connaissais depuis 10 années, me passe un coup de téléphone et me dit qu'il veut absolument écrire avec moi son prochain livre. Je commence par lui dire que je ne suis pas un scientifique, bon, certes que j'ai lu pas mal de choses en niveau de la vulgarisation ou de l'information de très bonne qualité, mais enfin que je ne me sens pas avoir la compétence nécessaire. Et puis, évidemment, je lui dis, bon, écoute, laisse-moi deux ou trois jours. Et puis, évidemment, la nuit suivante, je n'ai pas dormi. Et je me suis dit, je ne peux pas laisser passer un truc pareil. c'est peut-être pas mon dernier livre, mais enfin, ça peut être mon dernier livre. Participer enfin à un véritable livre de science, parce que c'est considéré comme tel, je ne peux pas manquer ça. Donc je rappelle Farabaud le lendemain, je lui dis banco, et on se met au travail. On a mis à peu près 6 mois à faire le... Je vous montre la chose. Ceux qui veulent... apprendre des choses essentielles, trouveront tout à l'heure à la librairie où j'irai le signer. Ben c'est pas le fond du problème. Alors, le sujet de ce livre, suggéré par Farabaud, que j'ai d'ailleurs vigoureusement encouragé sur cette voie, n'est pas une nouvelle présentation de la physique quantique pour le grand ou pour le moyen public, je dirais plutôt pour le moyen public. Parce que ça, il y a des tas de très bons livres. Il y a un très bon livre, par exemple, d'Initiation à la physique quantique de Michel Lebelac, si je ne me trompe pas. L'idée est de montrer combien, dans d'autres domaines aussi, mais enfin essentiellement dans le domaine de la physique quantique, les créateurs de la physique quantique ont eu du mal à accepter les conséquences de leur découverte, de leur théorie et de leur propre théorème. Tout à fait au départ, il y a Max Planck qui invente une histoire invraisemblable de résonance pour expliquer pourquoi, dans certaines expériences, les observations sont discontinues et non pas continues comme elles le sont selon les lois immuables de la physique classique. Je parle sous ton contrôle. Donc, il invente un truc absolument extravagant et il mettra très longtemps à accepter que ce n'est pas une propriété du système expérimental dont il essaye de rendre compte, mais que c'est une propriété fondamentale de l'univers. Même chose pour un des plus grands esprits qui a fondé la physique quantique, je pense à Erwin Schrödinger, dont je vous recommande, en dehors de ses textes proprement techniques, les réflexions philosophiques. Par exemple, qu'est-ce que la vie, qui est un ouvrage fondamental. Erwin Schrödinger n'a jamais accepté une conséquence de son équation revue par Max Born, qui transforme en probabilité les possibles résultats d'une évolution, d'une particule ou d'un objet quantique, disons plutôt. Il n'a jamais accepté donc la conséquence qu'était la non-localité. Et il n'a pas été le seul à ne pas l'accepter, puisque pendant très longtemps, dans le monde des physiciens même, c'était très mal, il était très mal vu de l'évoquer, cette non-localité. Est-ce que je dois en dire un mot pour... Je pense
qu'il vaut mieux parler, continuer un petit peu et voir si... garder un peu de temps pour les questions, on verra s'il y a des questions de la salle sur la question.
Cette non-localité a été l'objet d'une dispute célèbre entre Einstein et Niels Bohr, où Albert Einstein, à mon avis, avait mieux compris les implications physiques. Il avait tort sur le fond, mais il avait mieux compris les implications physiques que Niels Bohr, c'est-à-dire que la non-localité risquait de contredire la relativité et la limite de la vitesse maximale C, disons la vitesse de la lumière dans le vide, pour faire simple. Mais en 1984, je crois.
Les manipulations d'espèces, c'est entre 80 et 84.
Je pensais avant à John Bell.
C'est 64.
En 1950
64.
64. En 1964, John Bell, qui était un physicien au CERN, sauf erreur, gribouille en un week-end la possibilité de mettre, trouver une vérification expérimentale à cette non-localité et donc de trancher le débat entre Einstein et Niels Bohr. Et ça a été assez mal vu dans la physique. Pendant très longtemps, il valait mieux pas trop y toucher. Et Alain Aspect, que j'ai eu le privilège de connaître et de rencontrer, en 1982, dans son laboratoire à l'Institut d'Optique d'Orsay, où il a fait des expériences fondamentales qui ont vérifié ce que avait proposé John Bell et qui ont établi qu'une propriété de la nature, c'était cette non-localité. Même si un jour la physique quantique et la relativité étaient remplacées, et c'est très vraisemblable, par une théorie plus complète, cette caractéristique de la nature ne changera pas, ne bougera pas. Même aujourd'hui, il arrive qu'on rencontre des physiciens de très haut niveau qui regardent ça avec une certaine suspicion.
Comment se fait-il qu'avec cette passion visible pour les sciences, tu n'aies pas fait d'études de sciences et ne sois pas devenu toi-même scientifique ?
Bon, alors je crois qu'il y a deux raisons. Une qui ne dépend pas de moi, c'est que quand j'ai commencé mes études secondaires, dans une banlieue parisienne, le niveau de l'enseignante en mathématiques était tel qu'il était un peu en dessous de la règle de 3. Alors évidemment, ça n'a pas facilité les choses et je n'ai jamais acquis la culture mathématique que j'aurais souhaité, même si je continue à faire des efforts. Par ailleurs, j'avais une faiblesse, c'est-à-dire une certaine capacité à écrire plutôt bien, à avoir beaucoup lu, et à être capable de structurer une pensée. Si bien qu'il m'était beaucoup plus facile de devenir un littéraire que de faire l'effort considérable d'apprendre des mathématiques et des sciences. Mais je l'ai regretté toute ma vie, et je le regrette encore aujourd'hui.
Un littéraire et un économiste, je crois.
Alors, et un économiste. Mais alors, tout à fait. Alors, j'ai fait Sciences Po, et puis je suis rentré, après 2 ans de guerre d'Algérie, dans une filiale de la Caisse des dépôts et consignations qui s'appelait la CEDAS, où j'ai en effet exercé le métier d'économiste, ou plutôt plus exactement de socio-économiste. Je ne suis pas un économiste théoricien à très haut niveau. J'appartiens à la dernière génération, je dirais, d'économistes littéraires. Bon, je peux manier 2-3 équations, mais ce n'est pas mon truc, ça ne va pas très loin. Je suis donc un des derniers représentants de cette espèce en voie de disparition et qui conviendrait peut-être de protéger parce que dans certains domaines, les modèles économétriques ne fonctionnent pas si bien que ça. Alors, par exemple, une de mes... Dans le cadre de cette activité, une grande réussite, si on peut dire, ça a été la conception du plan d'épargne logement qui existe hélas toujours, alors qu'il n'a depuis au moins 20 ans plus aucun sens et qu'il aurait dû être supprimé il y a longtemps. Mais quand je l'ai créé, bon, je passais la peine de revenir sur les détails, mais ben, ça avait un sens. Enfin, quand je l'ai conçu, hein, c'est pas moi qui ai signé le décret d'application.
Tu disais écrire assez facilement. Je crois que tu as soumis tes premières nouvelles alors que tu étais encore étudiant, vers 17 ou 18 ans.
Oui, tout à fait. J'ai publié ma première nouvelle en Galaxy. J'ai commencé à écrire. Je crois que j'ai envoyé un texte qui était franchement pas très bon à Maurice Renaud quand j'avais 14 ans. Et il m'a répondu très, très, très gentiment. C'était les débuts de fiction. Hein. Et il m'a répondu d'ailleurs très très gentiment et par la suite nous sommes devenus amis et il a même été mon agent si pour autant qu'on ait besoin d'agent en France pendant un certain temps. Alors ma première nouvelle est parue dans la revue Galaxy en octobre 1955. Je dirais que ce n'est pas un chef-d'œuvre impérissable. Mais moi, j'étais très fier de publier cette nouvelle. D'ailleurs, j'avais envoyé cette nouvelle à la revue Galaxy, première version, qui, je dois dire, était assez mal éditée. Puis, j'avais jamais eu de nouvelle. Et un jour, en achetant mon Galaxy, je tombe sur ma nouvelle. Émotion.
Quelle est l'importance de cette bienveillance des éditeurs, cette réponse que tu as pu avoir à 14 ans dans la construction d'un jeune auteur tout à fait débutant.
Je sais pas si ça a eu... Enfin, c'était évidemment à la fois sympathique et je l'ai pris comme un encouragement. Mais je pense pas que ça ait eu une importance particulière. Ce qui a eu une importance particulière, c'est plus tard donc ma rencontre de l'équipe de fiction, en particulier d'Alain Doré-Mieux, de Maurice Renaud, dont je parlais tout à l'heure. Et alors que je proposais à Doré-Mieux de faire des critiques ou de publier des choses en fiction, il traînait un peu les pieds. Mais à partir du moment où j'ai eu une nouvelle publiée dans Galaxy, donc en octobre 55, dès le début de l'année 56, j'ai commencé à publier dans fiction des nouvelles et des tapés d'articles et de critiques. Je ne sais pas combien, des centaines probablement.
Est-ce que tu signes déjà Gérard Klein ou est-ce que tu es...
Non, j'ai toujours signé Gérard Klein, sauf par accident. J'ai signé un roman qui n'est pas terrible en collaboration avec qui est signé François Pagerie en collaboration avec le Patrice Rondard, le PA, Richard Chomet, le RI et Gérard Klein, le JE. C'est pas très bon, c'est paru au Rayon Fantastique, je ne sais plus si c'était avant ou après. Que je fasse paraître, je crois que c'était après que je fasse paraître dans cette même collection Le Gambit des étoiles, qui est mon premier roman publié. J'ai dû le terminer à peu près quand j'avais 18 ans, mais il n'est paru que quand j'en avais à peu près 21. C'est la vie.
Qu'est-ce qui fait qu'après Le Gambit des étoiles, qui reste comme un des grands classiques de la littérature française, de science-fiction en tout cas,
n'exagérons rien.
J'assume. Tu deviens Gilles d'Argire, qui est aussi un des auteurs majeurs de Planète Opéra, avec une foule d'idées des révolutionnaires pour l'époque. Je crois que c'est l'une des premières fois qu'on entend parler de voile solaire, même à l'échelle mondiale, qu'on entend parler de terraformation d'une planète. Mais pourquoi deviens-tu Gilles d'Argire alors que Gérard Klein existait déjà avec des romans importants ?
La raison est simple. La raison est la suivante. C'est que j'avais publié déjà un recueil de nouvelles chez De Noël, dans Présence du futur, sous l'autorité de Robert Canters, qui dirigeait Présence du futur. et que, d'autre part, en 1958, je crois, ou 57 ou 58, je rencontre André Ruelland, alias Kurt Steiner, qui publiait au Fleuve Noir et qui, en quelque sorte, m'ouvre les portes du Fleuve Noir. Alors, pour des raisons en partie alimentaires, j'ai en quelque sorte suivi l'exemple d'André et je me suis mis à écrire des romans plus faciles que ce que j'avais l'intention d'écrire par la suite ou que mes nouvelles, des Perles du Temps. Je voulais donc bien distinguer ce que j'écrivais de, disons, de plus solide et ce que j'écrivais de plus populaire, que je ne renie pas du tout d'ailleurs, publié au Fleuve Noir. D'où la prise d'un pseudonyme. Alors Gilles d'Argir, bon, Argir est une plaine de Mars, et puis en plus, Argyros en grec, j'ai fait du grec entre autres choses, entre autres plaisanteries, signifie d'argent, donc ça évoque bien ce dont il s'agissait.
Pourtant, c'est probablement la partie de ton œuvre où la science est la plus présente.
Oui, probablement, peut-être encore que si on regarde pratiquement la dernière nouvelle, non, c'est pas la dernière nouvelle que j'ai écrite, mais enfin, Mémoire vive, mémoire morte, qui a été écrite en 1900, qui a été parue en 1986, donc ça commence à faire plusieurs payes, à la demande d'Apple, qui, pour que je l'écrive, m'a offert le premier Macintosh en 1985. C'était impossible de résister à une telle proposition. Je parle d'une puce que j'appelle la Perle et qu'on peut loger dans le cerveau d'un embryon, de telle sorte que ces neurones établissent des connexions avec cette puce, qui le dote donc d'une mémoire considérable, que j'avais évaluée à 1 ou 2 téra, et finalement je ne me suis pas trop trompé, parce qu'il y a des évaluations qui disent que toute l'information d'une vie humaine doit tenir dans ce volume. Alors je trouve que dans cette nouvelle, il y a une dimension technico-scientifique, probablement dans d'autres aussi, mais parfois elle est assez cachée et masquée sous la couverture littéraire, ce qui n'est pas le cas pour ce qui n'a pas été le cas pour mes 5 fleuves noirs. Il y a une chose amusante, c'est que évidemment à partir du moment où j'étais économiste puis j'écrivais d'autres choses, je n'avais vraiment pas le temps d'enchaîner les fleuves noirs comme le fleuve noir le souhaitait. Si bien que j'ai écrit le dernier, comment il s'appelle déjà, le dernier fleuve noir, ça m'échappe, moi. Il y a sûrement quelqu'un dans la salle qui le sait. Je l'ai écrit tout de suite en rentrant en Algérie, parce que j'avais besoin de sous. En décembre 1962, je l'ai donné au fleuve noir. Et il n'est paru, parce qu'ils attendaient un suivant qui n'est évidemment jamais venu, il n'est paru qu'en 1968, au mois de juin, je crois, ce qui n'était peut-être pas la meilleure date.
Le Gambit des étoiles que tu évoquais à l'instant est l'un des rares romans de science-fiction française de l'époque qui a été rapidement traduit en anglais et qu'on trouve encore aujourd'hui dans les éditeurs anglais. Comment se fait, d'abord, quel a été ton contact avec la communauté américaine de science-fiction ? Est-ce que tu as été adopté immédiatement comme l'un des leurs ? Et d'autre part, comment se fait-il que typiquement les Voiliers du Soleil, qui semblent tout à fait compatibles avec ce qui se faisait à l'époque aux États-Unis, n'aient pas été traduits ?
Alors, franchement, je ne sais pas. Bon, oui, j'ai intégré très vite la communauté de la science-fiction de l'époque, avec d'autant plus de facilité qu'il n'y avait pas grand monde. C'est-à-dire que j'en étais une part importante. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé, alors que j'avais pas tout à fait 17 ans, je pense, sur la foi d'une publicité minuscule parue dans la revue Fiction, à une librairie. Je suis allé voir une librairie qui s'appelait La Balance et que cette publicité annonçait comme consacrée à la science-fiction. Et là, sous la houlette de Valérie Schmid, qui tenait fort bien cette librairie, qui se trouvait à l'époque 2 rue des Beaux-Arts à Paris, j'ai rencontré tout de suite Pierre Versin, Jacques Sternberg, surtout Jacques Bergier, qui a joué un grand rôle dans mon éducation scientifique. Enfin bref, Michel Pilotin, alias Stéphane Spriel, le gratin des éditeurs et des auteurs qui étaient vraiment très peu nombreux de l'époque. Je suis allé très régulièrement à cette librairie, d'autant plus facilement à partir de mes 17 ans, quand j'ai eu le bac, que j'en suis entré à ce moment-là à Sciences Po, qui était bien à 352 mètres de la librairie en question.
Et au niveau international, est-ce que tu as rapidement intégré la communauté américaine en particulier ?
Non, au niveau international, j'ai eu deux chances, une demi et une tout à fait vraie. La demi, ça a été grâce à Donald Wallheim. Donald Wallheim était un éditeur et un auteur d'ailleurs américain qui a été le premier à publier en 1943, sauf erreur, une anthologie de science-fiction dans le pocketbook, sous forme de livre de poche. Il faut d'ailleurs voir qu'avant la Seconde Guerre mondiale, les livres de science-fiction sont très rares. On peut presque dire qu'ils n'existent pas. La science-fiction paraît à peu près uniquement dans des revues, c'est-à-dire les pulps. Alors, je ne sais plus très bien dans quelles circonstances j'ai rencontré Wallheim, soit lors d'un voyage aux États-Unis en 1965 ou 1966, où d'ailleurs j'ai fait aussi la connaissance de Robert Silverberg, qui est resté un ami, ou bien si c'est à l'occasion d'un passage en Europe de Wallheim. Mais Wallheim se souvenait de ses origines européennes et trouvait quand même un peu désagréable, un peu déplaisant que le public américain ignore ce qui se faisait en Europe et en particulier en France. Alors il a choisi un certain nombre de livres, il les a fait traduire, et c'est là où je parle d'une demi-chance, parce qu'il les a fait traduire par des étudiants, et ces traductions sont de véritables catastrophes. C'est même mon faible anglais de l'époque me permettait de me rendre compte que ce n'était pas tout à fait ça. Enfin, ça s'est pas mal vendu, semble-t-il, et ça doit faire d'ailleurs l'objet d'une réédition en anglais. Enfin, il va y avoir un ensemble d'un certain nombre de mes livres en anglais et nouvelles. C'est Black Press qui va faire ça. Je crois qu'ils vont faire ça évidemment sous forme numérique. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une édition papier. Et c'est Robert Silverberg, d'ailleurs, qui a fait une très gentille préface. Ça doit sortir d'ici, je ne sais pas quand, la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, à destination du public anglo-saxon. Alors, j'ai eu une chance complète, mais qui, pour une autre raison, est une demi-chance. C'est j'avais fait la connaissance de John Brunner, que j'ai édité, qui est devenu un très grand ami, pratiquement jusqu'à la fin de sa vie. Et si bien que Brunner a accepté de traduire, alors là, de façon somptueuse, splendide, « Les Seigneurs de la Guerre », qui est paru aux États-Unis dans une très bonne maison, laquelle, moi, c'est normalement, ça devrait me revenir, mais enfin, je suis vraiment un peu fatigué là. Seulement, j'ai jamais réussi, bien que le livre soit épuisé depuis au moins 30 ans aux États-Unis, je n'ai jamais réussi à récupérer les droits. Si bien que cette excellente traduction aurait trouvé place dans le recueil de l'espèce d'omnibus de Black Press, Mais on n'a pas pu retirer les droits. Et je dois dire que l'éditeur américain, qui est un éditeur important, a été assez déplaisant parce qu'il ne veut ni rééditer, ni libérer les droits. Je veux dire, en France, dans la même situation, il suffit d'envoyer une lettre simple et éventuellement recommandée à un éditeur. Et dans mon expérience, c'est une demande qui m'a souvent été faite, enfin qui m'a été faite et que je transmets chez Lafont, on lui rend, si on réédite pas son bouquin, dans un délai raisonnable, on lui rend ses droits sans aucune espèce de forme de procès. Mais le droit américain est très différent. Et alors on m'a dit qu'il faudrait prendre un avocat, faire un procès, etc. Évidemment, c'est au-dessus de mes moyens.
On disait tout à l'heure que tu étais aussi un des éditeurs majeurs. Tu es devenu éditeur relativement tôt aussi, je crois, à la fin des années 60. Malheureusement, les journées n'ayant que 24 heures, étant à la fois économiste, t'engageant fortement comme...
36 heures.
36 heures pour toi. Mais toutes les journées n'ayant pas 72 heures, tu n'as pas réussi à être à la fois économiste, non, et éditeur et anthologiste. Et auteur prolifique, tu as continué à écrire un petit peu, mais ta production a un peu diminué à ce moment-là. Quelles sont les raisons de ce choix de basculer en grande partie de l'écriture vers l'édition ?
Ce sont de ces hasards qui vous sont imposés par l'existence. C'est-à-dire, dans un premier temps, il y a eu, mais on en parlera peut-être dans une table ronde tout à l'heure, la grande anthologie de la science-fiction du livre de poche qui a été une véritable épopée. Jacques Guamard, qui était à l'origine du projet, le maître Ioachimidis, qui avait la bibliothèque nécessaire, et moi, je ne sais plus très bien pourquoi, nous avons signé avec Hachette en 1966. Les livres ont commencé à paraître, je crois, en 1974. Je peux vous dire que ça a été une vraie galère entre les deux. Pas pour faire le choix des textes. Tous les trois, nous sommes très bien entendus et nous avons fait des choix que je crois assez bons, en partie à partir des revues où il y avait eu des traductions, Fiction et Galaxie, en partie en faisant traduire des originaux. Mais, j'en parlerai peut-être plus en détail tout à l'heure, donc ce n'est pas indispensable. Donc ça, j'ai commencé à prendre le goût de l'édition. Et puis, pendant les années 60... autant les années 50, années de découverte, avaient été des années relativement fastes pour les auteurs français de science-fiction, je veux dire en France. Mais les années 60 ont été une véritable catastrophe. Les collections de Rayon Fantastique a disparu. Canters publiait de moins en moins et pratiquement plus d'auteurs français. D'ailleurs, il faut bien dire qu'il détestait la science-fiction. Enfin, en tout cas, ça ne l'intéressait pas du tout. Il préférait l'ésotérisme, chacun ses goûts. Il y a cette élite auquel j'ai participé avait disparu aussi, donc il y avait vraiment un grand creux. Donc, dans le courant des années 60, 1960, je ne peux pas exactement dire quand, j'ai écrit un papier décrivant la collection pour moi idéale de science-fiction, qui serait une collection littéraire, et j'ai adressé ce papier à tout ce que Paris comptait d'éditeurs sérieux sans absolument aucune espèce de réponse, de résultat, silence radio sur toutes les gammes d'ondes. Et puis un jour, alors que je déjeunais au déjeuner du lundi dans un restaurant italien de la rue des Canettes, tout à côté de la place Saint-Sulpice, je vois Jean-Pierre Mocky, avec qui j'avais fait un film, si vous voulez le mentionner. J'ai vu une adaptation d'un roman de Jean Rey, La cité de l'indicible peur. Je vois Jean-Pierre Mocky qui dîne avec quelqu'un que je connaissais de vue, qui était Robert Laffont, mais je ne connaissais pas du tout personnellement. Alors, je vais saluer évidemment Mocky. Mocky me présente à Robert Laffont, en lui disant « Vous devriez travailler avec ce gars-là, il est sérieux. » Lafont dit « Venez-moi, prends rendez-vous. » Et 15 jours après, je vais le voir. Puis je lui explique mon idée de collection. Alors il me dit, oui, je fais. La science-fiction m'intéresse beaucoup. On n'avait pas tout à fait la même conception, mais enfin, ça n'a pas beaucoup eu d'importance. Et il m'a toujours soutenu, encouragé. Et nous sommes devenus des amis très proches, pratiquement jusqu'à la fin de sa vie, en fait. Et alors je lui dis à ce moment-là, maintenant il reste à trouver quelqu'un pour s'en occuper, parce que moi j'ai pas vraiment pas le temps. Je suis économiste, je sais plus ce que je faisais d'autre, etc. Puis j'essayais quand même d'écrire un peu. Et Robert Laffont me dit, ah non, c'est vous ou je fais pas. Alors j'ai été piégé. Et c'est comme ça que la fin de l'année 1969 est paru Le Vagabond de Fritz Leiber sous couverture métallique, le premier volume D'ailleurs et demain. Tout a été difficile. Encore une fois, pas avec Robert, hein, c'est bon. Mais Ailleurs et demain, le titre de la collection, personne n'en voulait. Ni les commerciaux, ni Robert lui-même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On ne comprend pas. Enfin, bon. J'ai l'impression que ça ne s'est pas trop mal installé dans le temps. Ensuite, il y a eu cette histoire des couvertures. Moi, je voulais quelque chose comme couverture qui évite l'illustration banale de science-fiction, même s'il y a d'excellents illustrateurs, voilà, qui a quand même tendance à tourner à l'astronef, à la scène spatiale, enfin, etc., au robot. Enfin, il y a une demi-douzaine de thèmes comme ça, et ça se ressemble terriblement, d'autant qu'il n'y avait peut-être pas de dessinateur si terrible que ça à l'époque. Donc je ne voulais pas avoir une couverture illustrée, mais je voulais quelque chose qui se remarque. Or, il se trouvait que, grand amateur de musique contemporaine, j'avais acquis toute la collection de chez Philips, qui s'appelait, quelque chose 2000, enfin, c'est pas musique 2000, mais quelque chose 2000, dont les pochettes étaient recouvertes de ce papier, une feuille d'aluminium collée sur carton. Alors j'ai dit chez Laffont que c'était ce que je voulais comme couverture. Alors ils ont fait venir ce papier. Et puis on m'a tout de suite dit, c'est pas possible, ça tient pas, enfin, etc. Fort heureusement, d'abord j'ai insisté, et fort heureusement, il y avait un excellent directeur de la fabrication chez Laffont qui était carrément teigneux, et qui s'est entêté pour que ça puisse marcher. Alors pendant les deux premières années, les résultats ne sont pas terribles. Le pelliculage a tendance à se décoller. Parfois, le papier, la feuille d'aluminium sur le carton aussi. Mais après, il avait parfaitement maîtrisé le processus. Et jusqu'à la fin des années 90, si je me souviens bien, on a eu aucun problème. Au contraire, ça a eu un immense succès. Au point que chez Maspero, je crois, un jour, je me plaignais de ce que les livres ne soient pas étalés sur les tables, mais ils étaient à côté des Pléiades, sous clé. Alors je dis à Maspero, est-ce que vous pourriez quand même pas les mettre ? Il me dit, mais vous n'avez pas honte de faire des livres qu'on vole ?
Ouais. Donc on pourrait parler comme ça pendant des heures. Je suis tenté quand même de donner la parole à la salle pour un échange un peu plus dynamique. Il y a un micro qui circule. Malheureusement, avec le projecteur, je ne vois pas très, très bien la salle. Est-ce qu'il y a des questions ?
C'est le bleu.
Là-bas, oui.
Ah, il y en a une là-bas. Je vois une main.
Simon Bréant, donc.
Oui, bonsoir. Alors, j'aurais aimé un peu entendre parler de la science-fiction, enfin, des thèmes de science-fiction de Gérard Klein. Et notamment, j'aimerais bien, en franchissant un peu le gouffre des siècles entre les perspectives que tu dessinais dans tes romans. Est-ce que ce qui, selon moi, caractérise tes romans, c'est un optimisme forcené, malgré les dangers que tu nous réserves dans tes histoires, mais un optimisme très fort, confiance en la science, en le progrès, en l'avenir de l'humain. Est-ce que cet avis-là, cette logique d'anticipation, est encore au cœur de tes préoccupations? Est-ce que tu estimes que l'écrivain Gérard Klein est encore optimiste?
Je dirais que j'ai été et que je suis toujours d'un optimisme raisonné. Il faut quand même dire que j'ai traversé dans ma vie, et pas tout seul du reste, quelques périodes carrément difficiles. La Seconde Guerre mondiale, qui n'a pas été épouvantable en ce qui me concerne, enfin, où j'ai quand même eu l'occasion d'assister, par exemple, à quelques bombardements. Puis la guerre d'Algérie, où j'ai quand même passé 2 ans, qui a été une guerre abominable de part et d'autre. Ceux que ça intéresse pourront lire quelques pages de la dernière réédition des Seigneurs de la guerre, au livre de poche, où j'en parle. J'évoque mon passage dans cette guerre en disant que, de manière très très lointaine, c'est ce passage qui m'a inspiré l'idée d'écrire les Seigneurs de la guerre, qui n'ont par ailleurs aucune espèce de rapport, ni de près, ni de loin, ni de travers, avec la guerre d'Algérie. Donc, ayant traversé ces expériences, ne me faisant tout spécialement en tant qu'économiste aucune espèce d'illusion sur le monde et son état, je reste encore une fois un optimiste raisonné. Je ne vois pas pourquoi les sociétés humaines ne continueraient pas à progresser dans le domaine des connaissances et des sciences et dans le domaine de leur développement économique et social. Alors, il y a un gros problème que vous connaissez certainement tous par cœur, c'est celui des changements climatiques, celui du réchauffement climatique. Ou bien les grands États sont capables de juguler ce réchauffement climatique, ou bien la vie sur Terre, enfin en tout cas une grande partie de la vie sur Terre, il y a des espèces thermophiles qui s'en porteront très bien, mais, et en particulier l'humanité, risque d'être considérablement affectée. Et considérablement affectée est un terme faible. Donc ça, ce serait un aspect pessimiste. Je pense que nous devrions, l'espèce humaine devrait réussir, comme elle l'a fait dans le passé, à maîtriser est un terme trop fort, mais enfin à régler à peu près et à temps ce problème. Enfin, évidemment, l'état actuel de la présidence des États-Unis ne nous incite pas à un optimisme excessif. Enfin, bon, elle n'aura qu'un temps. Il y a eu des gens plus raisonnables, il y en aura certainement des gens plus raisonnables, donc on peut l'espérer. Ensuite, sur le plan plus proprement économique, en particulier les pays occidentaux industrialisés traversent une passe délicate du fait de la mondialisation, que certains appellent globalisation. Je pense là aussi que c'est une des raisons pour lesquelles les revenus, les niveaux de vie, etc., ont tendance à stagner. C'est, à mon sentiment, une des raisons pour lesquelles, c'est même la raison principale pour laquelle l'inflation, qui soucie beaucoup d'économistes, ne monte pas, enfin ne retrouve pas ces niveaux d'avant la globalisation. Je pense que c'est l'affaire de 2 ou 3 générations. C'est-à-dire que quand cette globalisation sera complétée, c'est-à-dire qu'il y aura une certaine homogénéisation des niveaux économiques et aussi politiques de la plus grande partie du globe, les choses retrouveront un cours que nous avons un peu trop tendance à considérer comme naturel, alors qu'en réalité, il n'a pris ce cours assez positif aux deux guerres mondiales près que depuis le début du XXe siècle et surtout que depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, etc. Reste que l'économiste que je suis ne peut que se poser avec inquiétude le problème d'un continent entier qui est l'Afrique. Et il se trouve que comme économiste, j'ai un peu travaillé comme conseiller. Sauf dans le Maghreb, je n'ai jamais travaillé sur place en Afrique noire. Mais enfin, voilà un continent dont certains démographes annoncent qu'il comptera 4 milliards d'habitants à la fin de ce siècle. Il doit déjà dépasser largement le milliard. Et je dois dire que je ne suis pas très rassuré quant à son développement. Alors, qu'est-ce qu'un tel déséquilibre peut permettre de pronostiquer pour l'avenir ? Certainement de grandes migrations. Ça, ajouté au réchauffement climatique, ça fait beaucoup. Cela étant, l'espèce humaine est très adaptable. Elle est très intelligente. Elle dispose de moyens techniques dont l'intelligence artificielle est un aspect considérable et je dirais même de plus en plus considérable. Donc, je reste, pour répondre à ta question, raisonnablement optimiste.
D'autres questions ?
Bonjour. Oui, on a abordé, je crois, plusieurs de vos casquettes, mais pas celle de préfacier. Vous en avez écrit de nombreuses, j'ai absolument pas la moindre idée du nombre exact de vos préfaces, que ce soit pour Ailleurs et Demain ou Collection de Livres de Poche, qui sont souvent plus que des introductions à un texte, mais des véritables bijoux sur l'essence même de l'écriture de la science-fiction. Peut-être juste quelques mots sur... Est-ce que dès le début de Ailleurs et Demain, par exemple, vous aviez déjà ce projet d'écrire des préfaces ? Est-ce que vous avez écrit des préfaces pour tous les textes publiés dans cette collection ?
Non. J'ai d'ailleurs écrit très peu de préfaces pour Ailleurs et Demain. Et je pense que cette collection, je l'ai fait pour des classiques, par exemple pour Hortog. C'est Guamard, d'ailleurs. C'est un article de Guamard ou un texte de Guamard qu'on a repris pour Hortog. Mais j'ai écrit. Je pense que cette collection, qui publiait essentiellement des inédits, n'avait pas besoin de préface et même ne devait pas en comporter. En revanche, au livre de poche, où il s'agissait de présenter des ouvrages qui étaient déjà publiés, le livre de poche n'a jamais publié aucun inédit, et j'ai dû éditer au livre de poche au moins 300 ouvrages et peut-être écrire. Certainement plus de 100, peut-être 200 préfaces. Au livre de poche, en revanche, j'avais une tribune et il me semblait utile, comme vous l'avez apparemment remarqué, de présenter ces ouvrages et de les présenter souvent dans le contexte scientifique, voire sociologique, dans lequel ils avaient été écrits. Je dois dire que je suis Ailleurs et Demain est plus spectaculaire et plus connu, mais je suis tout aussi fier et peut-être presque plus fier de la collection que j'ai dirigée pendant fort longtemps jusqu'en 2013 où mon contrat s'est trouvé dénoncé entre 86 donc et 2013. Je suis très fier de cette collection parce que j'ai vraiment publié à mes yeux le gratin du gratin par centaines de titres. Je crois qu'il y a certains qui n'ont pas marché du tout d'ailleurs. Personne ne me l'a jamais reproché, même si ça a peut-être joué dans le fait que mon contrat n'ait pas été renouvelé en 2013. Mais je pense qu'il y a eu d'autres excellents livres qui sont sortis dans d'autres collections de poche. Et ailleurs, je ne prétends pas être le seul, mais je pense que cette sélection est assez exceptionnelle. Et un certain nombre d'Américains en particulier qui connaissent la collection, en particulier pour avoir été publié dedans, m'ont dit qu'il n'y avait rien de tel aux États-Unis, par exemple.
Et choisissais-tu des livres qui te semblaient mériter une préface ou qui t'inspiraient ou au contraire, est-ce que tu choisissais les livres pour lesquels tu avais déjà quasiment une idée de préface ou est-ce
non,
que l'idée de préface
non,
te venait
non, c'est toujours à l'envers que ça s'est passé. Tous les livres ne sont pas préfacés. Quand ils étaient trop gros, j'hésitais à rajouter un cahier. Mais enfin, je pense qu'à partir d'une certaine date, à partir d'une certaine époque, 8 livres sur 10 au moins bénéficient ou maléficient d'une préface. Et j'ai eu un grand plaisir à les écrire. Je dirais qu'à un moment où, pour des raisons personnelles, je n'ai pas évoqué ici, je n'ai plus le goût d'écrire de la fiction. J'ai été très heureux d'écrire ces réflexions, enfin d'avoir cette tribune et d'écrire je sais pas combien de pages, enfin je crois que c'est ça doit bien faire l'équivalent de 2 Pléiades.
Est-ce qu'on a une chance de les voir en recueil un jour?
Alors je ne sais pas, il faut dire qu'on en trouve un grand nombre sur le site de 42. Et toutes, je crois que celles qui sont les, presque toutes d'ailleurs, sauf peut-être les plus récentes, se trouvent sur le site de 42. Vous pouvez les lire. Bon, j'aimerais assez qu'un recueil, au moins d'un choix. Et, non, ce que j'aimerais surtout, c'est que ce soit réuni dans un recueil, mais. Premier texte critique, je veux dire critique de fond, paru dans fiction, qui sont totalement introuvables, sauf pour quelques-uns, qui sont disponibles sur le site de 42. Enfin, j'ai écrit des articles sur Dick, sur Van Vogt, sur qui vous voudrez. Et ça, c'est difficilement accessible aux jeunes générations, dont la culture est défaillante sur ce plan. Bon, enfin, je pense quand même que pour ce genre de... J'aimerais beaucoup qu'il paraisse un ou plusieurs recueils, mais enfin, encore une fois, si on décidait de les publier toutes, ça ferait plus d'un Pléiade. Je pense que l'avenir pour ce genre de texte, c'est quand même le numérique et l'écran. Donc, et grâce à Dominique Martel et Hélène Hertzfeld, beaucoup d'entre eux sont disponibles sur le site de 42... où vous pouvez vous reporter.
Je pense qu'on a encore le temps pour une question au moins. Non. Pas d'autres questions ?
Vraiment, un petit effort.
Oui, je vais un peu anticiper sur une table ronde de tout à l'heure, mais moi, j'ai grandi avec la grande anthologie de la science-fiction. Donc, je vous remercie beaucoup. Bon anniversaire. Encore une fois, de tout ça, parce que c'est vraiment ce qui m'a amené à Robert Silverberg, à John Brunner, à des tas de gens extraordinaires. Dans le travail de choix de tous ces textes, est-ce qu'il y avait une direction générale, un grand plan d'ensemble, quelque chose, ou est-ce que c'était à chaque fois, thème par thème, un choix particulier?
Attends, et vous parlez des anthologies, là, ou de la collection Ailleurs et Demain?
Non, je parle des anthologies.
Ah, alors, bon, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu l'étape de la grande anthologie de la science-fiction, première et deuxième période. D'un commun accord, Guamard, Joachim Liss et moi avons choisi d'aborder thème par thème les sujets, donc de regrouper des nouvelles exclusivement anglo-saxonnes. Ça, c'était le point de vue de Guamard. Je n'étais pas entièrement d'accord, mais enfin, étant juge et parti, en l'occurrence, je pouvais difficilement m'y opposer. Donc nous avons fait, avec la grande anthologie, qui comporte, si je me souviens bien, 36 volumes, une anthologie délibérément thématique. Alors il y a certains thèmes, sous d'autres titres, se répètent. Bon, ça c'est, disons qu'il y a une douzaine de thèmes fondamentaux, et puis qu'après on a remis ça. J'étais quand même très ennuyé que les auteurs français ne soient pas du tout représentés, si bien que plus tard, en particulier quand on m'a confié la direction de la collection science-fiction de livres de poche, j'ai lancé une anthologie de textes français de science-fiction qui comporte 6 volumes. Ils n'ont pas eu malheureusement le succès qu'on pouvait espérer, tandis que la première anthologie, la grande anthologie anglo-saxonne, a eu un succès colossal, auquel d'ailleurs les gens de chez Hachette et du livre de poche ne s'attendaient pas du tout. Les plus grosses ventes se sont situées entre 120 000 et 140 000 exemplaires, la plus petite à 40 000, alors que les anthologies françaises n'ont jamais atteint les 10 000.
Ce sont des chiffres qui font rêver les éditeurs d'aujourd'hui. Ce sont des chiffres qui font rêver les éditeurs d'aujourd'hui.
Oui, ça, tout à fait. Bon, c'est un autre problème qui nous entraîne trop loin. Mais depuis le milieu des années 1990 à peu près, on a assisté à un déclin du public français en France, et pas seulement en France, également dans le monde anglo-saxon, en particulier aux États-Unis, à un déclin du public de la science-fiction. Et ça rend l'édition très difficile. Bon, et d'un autre côté, ça laisse une place de choix aux petits éditeurs qui font un très beau travail. Je pense au Bélial, à ActuSF, enfin, à tous ceux que vous connaissez et que je salue.
Ce sera le mot et le salut de la fin. Je voudrais remercier encore pour tout ce qu'il a fait pour la science-fiction, Gérard Klein. Et donc, ceux qui sont curieux du nouveau Gérard Klein en historien de la en historien des sciences cette fois peuvent le retrouver en signature dans quelques instants à la librairie. Merci à tous et bonne fin de festival.
Attends une seconde, je voudrais ajouter ceci, c'est qu'à aujourd'hui, ce livre est paru en mai, 24 bibliothèques universitaires en France l'ont acquis et dans la biographie je ne sais quoi, enfin justement des livres de sciences, il n'a pas été caractérisé en vulgarisation comme les autres livres de mon ami Farabeau, mais pour moi simplement en science. J'attends le prix Nobel.